franceinter.fr.
Voici donc la revue de presse. Bonjour Hélène Jean.
Bonjour.
Récit tragique ce matin à la une du Figaro.
Mossoul, 19 juin, 12h45, soudain, le monde éclate. Ce jour-là, trois journalistes, Véronique Robert, Bakhtiar Haddad et Stéphane Villeneuve, trouvent la mort dans l'explosion d'une mine. Samuel Fauret est le seul survivant. Il raconte ce jour noir. 6h, Mossoul s'éveille, vide et silencieuse. La guerre a ses bruits et ses silences aussi. Les quatre reporters suivent ce matin-là une troupe de choc de l'armée irakienne engagée dans l'assaut final. Ces journalistes se connaissent depuis longtemps pour certains. Ils refaisaient le monde, parfois, le soir, sur les canapés miteux des maisons réquisitionnées. Ils parlaient de bataille, ils parlaient d'amour et de l'après-Mossoul. À 7h, l'attaque commence. Les unes après les autres, les escouades s'aventurent dans la vieille ville, moins comme des combattants à l'assaut que comme des explorateurs à la découverte d'un monde à la renverse, étrange et dangereux. L'attaque déclenche une riposte. Mortiers, roquettes et tirs à câbles de feu, l'école où ils se sont réfugiés un instant. Je sympathise avec Stéphane. Bienvenue à Mossoul, ça tangue, hein, écrit Samuel Fauret. Le cœur s'accroche, s'inquiète un peu, mais il tient bon. 4 longues heures, le feu se calme. D'un bond à l'autre, nous découvrons un univers dantesque, écrit le journaliste. Avancer dans ce chaos n'a jamais été si complexe et dangereux. L'explosif des voitures suicides dont se servaient les djihadistes de Daesh se retrouve dans des mines artisanales qui sautent au moindre contact. Alors les quatre avancent pas à pas, prudemment, veulent rejoindre l'école qui leur a servi d'abri. Devant un tas de pierres, Bakhtiar dit « Attention Samy, c'est peut-être miné !» Et là, le monde éclate. Un mur d'air, de chaleur et de débris vient à ma rencontre, me frappe, m'assourdit, m'aveugle. La conscience hurle, la douleur vient. À travers la poussière et le voile de mes yeux râpés, je distingue mes camarades à terre. Samuel Fauret arrive en 5 minutes au premier poste médical avancé. Un infirmier lui dit « Calme-toi, tu as trompé la mort aujourd'hui ». Je pense à mes camarades. Ont-ils trompé la mort, eux aussi ? Non, Samuel Fauret sera le seul survivant. Pour Bakhtiar, mon frère, dit-il, pour Véronique et Stéphane, il raconte ce matin ce jour noir.
C'est-à-dire donc dans le Figaro. À la une de l'actualité également ce matin, un visage et un compte à rebours.
Affaire Grégory, une garde à vue décisive, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Dans Libération, la photo de Muriel Boll, prise le 11 janvier 1985. D'elle, on se souvient surtout de sa chevelure rouffeuse, de son air juvénile et de son regard apeuré. Dans la mémoire collective, racontent Timothée Boutry et Jean-Michel Descugis du Parisien, Muriel Boll est restée cette adolescente fragile, 15 ans à l'époque des faits, 48 aujourd'hui, simple et influençable. Portrait donc de cette jeune fille simple et fragile, mais qui ne se laissait pas faire, disait aussi un de ses enseignants. Avant-dernière d'une très grande fratrie, sa mère a eu 21 grossesses, emportée dans une calamité judiciaire qui l'a dépassée. C'est elle, Muriel Boll, qui va désigner son beau-frère Bernard Laroche comme coupable. Avant de revenir sur ses aveux, 32 ans après les obsèques de ce même Bernard Laroche, tué par Jean-Marie Villemain, la voilà donc à nouveau devant les mêmes gendarmes. L'affaire Grégory, son horizon indépassable. Muriel Boll, celle qui sait, c'est-à-dire sur le site lesjours.fr, récit minutieux de Patricia Touranchot qui donne les différentes versions de la jeune fille, ses aveux, sa rétractation après une soirée dans sa famille. Les voisins se souviennent encore des cris et des pleurs entendus toute la nuit. Sa propre mère avouera qu'elle a tenté de se suicider. Mais à partir de là, Muriel Boll restera emmurée dans ses dénégations, tenue par un secret de famille intrahissable, écrit Patricia Touranchot. Muriel Boll, celle qui sait, celle qui a repris en tout cas hier une garde à vue entamée en novembre 84. Les gendarmes hier matin ne disposaient plus que d'un crédit de 25 heures pour atteindre donc la durée butoir de 48 heures. 25 heures pour dépasser ou pas donc son horizon indépassable, pour dénouer aussi ce que Jean-Marie Montali qualifie de traumatisme national.
Mais d'ailleurs Hélène, pourquoi sommes-nous à ce point fascinés par ce fait divers?
Eh bien en raison sans doute de son caractère extraordinaire, par sa durée, par le huis clos familial en cause, mais nous avons été tout aussi fascinés par Landru, par Dominici, par Roman ou encore par Ligonès. De Caïn et Abel à l'affaire Villemain, pourquoi le mal nous fascine, s'interroge Marie-Lucille Kubacki dans l'hebdo La Vie. Certains journaux, à succès comme Nouveau Détective, s'en repaissent aujourd'hui encore. Les émissions télé type Faites Entrer l'Accusé font des cartons d'audience, les écrivains épuisent matière. L'Adversaire, par exemple, d'Emmanuel Carrère, ou Le Laetitia, ou La Fin des Hommes, d'Yvan Jablonka. Alors, pourquoi? Eh bien, la réponse est romanesque et psychanalytique. Les personnages de faits divers sont paroxystiques et porteurs de tragédie, répond Didier Decoin. Et puis, il se joue aussi quelque chose de l'ordre de la fascination-répulsion. En participant à la passion de la tragédie, on l'exorcise, avance un psychanalyste. Avec Dostoïevski, nous comprenons également qu'un des éléments qui nous fascine, c'est le plaisir éprouvé à désigner le mal chez autrui et du coup à nous placer du côté du bien. Et ben voilà, quand vous lirez les articles sur l'affaire Grégory ce matin, il faudra s'en souvenir.
Dans la presse également, enquête sur la gestion d'une collectivité locale.
Oui, celle présidée en l'occurrence par Laurent Wauquiez, la région Auvergne-Rhône-Alpes, enquête de Denis Laffaire trouvée sur le site de la tribune.fr qui vitriolise la gestion du nouveau président de région, cette collectivité de près de 9000 agents. Incapacité à mener à bien la fusion des deux ex-régions, volonté intangible de Roland Wauquiez de faire 300 millions d'économies sur les coûts de fonctionnement sans égard et sans consultation. Détestation du même Wauquiez pour tout ce qui ressemble à un corps intermédiaire qui confine à la paranoïa, paraît-il. Les syndicats parlent même de défiance idéologique et sectaire et de chasse aux sorcières contre tous ceux qui sont tenus pour être des suppôts de la gauche. Alors tout y passe. Au sein même des instances représentatives des chefs d'entreprise de la région, raconte Denis Laffaye, confidentiellement, on s'inquiète de la façon dont le président distribue désormais des aides directes aux entreprises et aux territoires. Façon immodérée et amorale, dit-on, d'assouvir une soif obsessionnelle du pouvoir. Alors si l'exécutif qui l'a mis en place est globalement épargné par les critiques, c'est bien lui, Laurent Wauquiez, qui semble concentrer toutes les anathèmes, clientélisme, autoritarisme, narcissisme pathologique, pilotage à temps très partiel de sa collectivité. Je vous l'ai dit, tout y passe. Laurent Wauquiez a refusé l'entretien réclamé par le journaliste et c'est dommage car il manque clairement sa voix, sa réponse, sa défense à une mise en cause vraiment accablante.
On termine, Hélène.
On termine juste par un conseil de lecture qui fait suite en fait à l'entretien de Louis Gallois avec Léa Salamé à 7h50 sur la situation à Calais. Calais veut changer de visage, nous raconte ce matin La Croix. Le conservatoire du littoral est en effet en train de réhabiliter une partie de l'ancienne jungle en lieu d'excellence écologique et paysagère. Les oiseaux migrateurs déjà reviennent. Le public, les scientifiques seront bientôt là aussi. Alors c'est un louable projet, sans aucun doute. Mais sur cette lande, une chaussette encore entre les coquelicots, un sac à dos d'enfant à tête de panda et une sardine de tente rouillée, décrit Marine Lamoureux dans La Croix. Les oiseaux reviennent à Calais. La question migratoire, celle des humains, elle, reste entière.
Merci à vous, Hélène Jean, pour la revue de presse. Et maintenant, le jeu. Combien avez-vous cité de journaux ou de sites, Hélène Jean, dont notre invité est propriétaire ou actionnaire?
Mais j'espère qu'il a compté, pas moi.
Pas beaucoup. Moi, j'en ai compté deux.
Pas
Xavier
compté.
Niel.
Je suis désolé, j'ai pas compté.
La Vie.
Oui, super. C'est super, La Vie. Moi, j'adore.
Voilà. Les Jours. Vous êtes
Les
actionnaire.
Jours, oui.
Voilà.
Mais je le jure, j'ai pas fait exprès.
Voilà. Mais vous n'avez pas cité Le Monde, Télérama,
ça m'arrive.
L'Obs, ou même Causeur, Mediapart, Le Monde Diplomatique. Pourquoi, Xavier Niel?
L'idée à la base, c'était d'aider la presse, c'était de se dire, on avait une presse écrite notamment qui était en difficulté, et comment on les aide à aller vers le numérique, et puis sont arrivés des titres purement numériques, et comment on pouvait les accompagner à se lancer, parce que c'était très très dur de financer. Alors j'ai financé des choses qui n'ont pas été des grands succès, mais dans le même temps, d'autres l'ont été. Et l'idée, c'est que cette presse soit capable de gagner de l'argent, parce que si elle gagne de l'argent, vous lui créez une indépendance vis-à-vis de ses actionnaires, de manière certaine, et vis-à-vis même de ses annonceurs. Vous avez la chance, vous, ici, de pas avoir d'annonceurs. Quand vous êtes un journal, vous avez des annonceurs, modéré, ouais. Puis vous avez un statut particulier qui vous épargne peut-être un certain nombre de choses, mais vous, ça, ce type de choses crée cette indépendance. Donc on a besoin d'avoir des investisseurs, mais ça a toujours été fait de manière minoritaire avec des associés, donc je ne contrôle aucun de ces journaux.
Donc quand vous entendez, quand vous retrouvez régulièrement cité parmi, vous savez, les milliardaires, les 9 milliardaires qui contrôlent la presse...
Oh, je crois que même qu'on est moins que ça, vous en comptez 9, mais je crois qu'on est moins que ça.
Et l'opinion, vous répondez quoi? Vous ne contrôlez rien?
Je ne suis pas
rien.
Actionnaire de l'opinion, c'est ça votre question?
Non. Vous contrôlez l'opinion publique.
Pardon.
Oui.
Écoutez, moi je n'ai pas le sentiment. Encore une fois, les journaux dans lesquels je peux être actionnaire, le choix, dans la plupart de ceux-là, le choix du rédacteur en chef ou le choix du directeur éditorial est fait par les journalistes. Donc on essaye d'avancer comme ça. Après, on n'est pas parfait. Vous n'avez pas l'air d'accord. Mais je vous écoute après avec plaisir. Mais en général, alors je vous avez sûrement compris, en fait, je suis mis à attendre. Sur La Vie, je ne suis pas au courant.
Mais l'objectif à terme, c'est.
Mais qui est approuvé à 60% par les journalistes.
Ah oui, d'accord.
Et qui se passe en fait
quand sur. Quand c'est pas approuvé, vous renommez.
Oui, mais qui se passe dans une très large concertation, parce que vous n'avez pas envie de vous faire jeter. Donc
voilà,
ça se passe. Et vous en avez déjà discuté avec certains de mes associés dans une très large concertation.
Bonjour Frédéric Becbédé.
Bonsoir Patrick, c'est ma dernière chronique.
De la saison.
Oui, c'est bien triste. Mmh. J'ai une idée de start-up pour la Halle Fraissinet, pour le
studio. Oui.
Il s'agirait de faire des livraisons de mojito par drone.
Ah.
J'ai pensé à ça.
C'est intéressant.
Tout à l'heure, je peux postuler.
Oui. Avec plaisir.
D'accord, voilà.
Est-ce qu'il a l'âge requis? Alors, on a beaucoup de questions d'auditeurs sur cette espèce de jeunisme, enfin, que vous avez vanté tout à l'heure. On y viendra dans un instant après la pub. À tout de suite.